Il en aurait très bien pu baptiser cette chronique à la une en Israël et en Europe, puisque il va s'agir des deux qui se rejoignent, notamment une fois par an, lors du concours Eurovision de la chanson. Suivez mon regard, vous avez déjà bien capté ce dont il va être question, puisque l'Eurovision, le concours Eurovision, menace de disqualifier Israël pour cause de, je cite, « chansons à caractère politique ». Israël, de son côté, ne veut pas pour l'instant changer les paroles d'October Rain, c'est le titre de la chanson qu'Israël veut proposer pour ce concours Eurovision de la chanson. Et Israël donc se dit prêt à boycotter le concours lui aussi. L'analyse de notre spécialiste maison qu'on retrouve chaque année à l'occasion de cet événement, c'est Anthony Sigé que Lise a pu rencontrer.
Anthony Sigé, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Anthony, vous êtes notre spécialiste de l'Eurovision depuis 2011 déjà. Cette année encore, grosse polémique. L'Eurovision menace de disqualifier Israël en raison de son choix de chanson. La chanson qui s'appelle « October Rain » visiblement est considérée comme trop politique. Alors, de manière objective, est-ce qu'à votre avis, c'est vraiment une chanson politique ou alors, comme l'a dit le ministre israélien, c'est plutôt tout simplement une chanson sur la résilience et les sentiments du peuple israélien après ce qui s'est passé le 7 octobre?
Alors, si on reste objectif, je pense que c'est vrai que déjà, avec pas mal d'appels au boycott d'Israël pour l'Eurovision, c'était déjà une situation compliquée. J'avais trouvé la position de l'IBU, qui organise l'Eurovision, assez courageuse en disant c'est pas un concours de gouvernement, c'est un concours de chaîne de télévision. Donc, ils ont laissé Israël concourir. Le choix de la chanson, je viens de relire encore les paroles. C'est vrai que c'est pas ouvertement politique, mais le titre de la chanson, October Rain, déjà pose problème parce qu'évidemment tout le monde peut le comprendre comme ça. Je pense que si Israël avait vraiment voulu faire une chanson sur la tristesse, c'était possible de le faire sans avoir un titre aussi contentieux. Donc c'est vrai que la chanson n'est pas ultra politique. Il y a eu pas mal de chansons dans le passé qui ont été politiques, qui sont passées, notamment une chanson gagnante pour l'Ukraine en 2016 qui était clairement politique. On avait donné l'excuse que c'était une chanson qui parlait d'un événement historique. On a eu plusieurs fois des pays qui ont été disqualifiés, notamment la Géorgie, je crois, en 2009, parce qu'évidemment, elle faisait référence à Poutine. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué cette année pour l'IBU de choisir, de prendre une décision, mais je pense qu'Israël ne s'est pas aidé en choisissant le titre avec le mois d'octobre et qui fait clairement référence aux attaques du Hamas.
Alors, évidemment, moi qui suis en Israël, Anthony, je dirais qu'aujourd'hui, toutes les chansons qui sortent sont autour, pour la plupart, hein, du 7 octobre. Tous les artistes, même les plus grands, n'ont pas réussi à faire quasiment autre chose depuis que des chansons qui, d'une manière ou d'une autre, parlent de ça. Donc, je pense que c'est aussi le cas de Eden Golan. Alors, est-ce que, effectivement, cette histoire du fait que dans le règlement, il ne faut pas que ce soit politique, hein, c'est marqué depuis des années, mais est-ce que d'habitude ils font autant attention ou est-ce que tout de même parce que c'est Israël, avec le conflit qui existe, ils ont double-checké, on va dire, cette chanson?
Mais je crois que vous avez raison. Après, évidemment, moi aussi, je pense que la chanson pourrait passer. Et je comprends très bien le fait qu'Israël veut faire une chanson qui parle un petit peu de la situation actuelle, qu'ils n'allaient pas faire une chanson pleine de joie. Donc ça, je le comprends très bien. Sauf que la règle, c'est la règle. L'Eurovision doit faire très attention. Il y a énormément de pression pour le boycott, notamment des pays scandinaves. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, moi, je pense qu'on ne s'est pas aidé en envoyant cette chanson-ci. Donc, je sais pas vous dire. Je sais que le double standard avec l'histoire, notamment des exemples que je vous ai donnés, me fait un peu dire que c'est un petit peu dérangeant de voir qu'ils font tellement attention à la chanson israélienne, mais c'était inévitable, à mon avis.
Et il me semble aussi, Anthony, mais vous allez me dire, qu'il y avait eu un scandale avec une chanson particulièrement antisémite dans un pays du Nord il n'y a pas très longtemps et qui était passée tout de même. Vous vous rappelez de ça?
Non, mais je pense que dans les présélections, notamment en Islande, je sais qu'il y a un chanteur palestinien qui concourt dans la présélection islandaise. Mais je ne me souviens pas d'une chanson antisémite qui soit passée à l'Eurovision. Ça, c'est certain. Dans les présélections, je ne me souviens pas du scandale. Après, c'est possible. Je ne suis pas toutes les présélections de tous les pays. Il y en a 40 en
Non, non,
général,
bien
donc
sûr.
c'est compliqué. Mais ça ne me dit rien, pour être honnête.
L'incident auquel vous faisiez référence, c'était en 2019, quand effectivement le candidat islandais avait sorti le drapeau palestinien sur l'un des lives, hein, et l'Islande avait eu une amende et une sanction, mais n'avait pas été disqualifiée.
Non, parce qu'en fait, ça a été fait en direct à la fin de l'émission. C'était un petit peu trop tard pour les disqualifier de toute façon. Donc ça, c'était clair, mais ça a fait beaucoup scandale. Et je me suis d'ailleurs fait interviewer par un journal islandais à ce propos. Mais c'est vrai que c'était un problème, mais c'était trop tard. Évidemment, quand on fait la remise des points et que quand ils sont dans le champ de la caméra et qu'ils montrent un drapeau palestinien, c'est un peu tard pour les disqualifier. C'est trop
Ouais.
tard. Donc c'est
Alors,
un problème.
la proposition, en fait, Anthony, de l'organisation de l'Eurovision, c'est de dire si on n'approuve pas votre chanson, Israël n'a qu'à en présenter une autre. Est-ce que ça vous paraît acceptable et est-ce que ça a déjà eu lieu historiquement, j'ai envie de dire, dans l'Eurovision?
Oui, tout à fait. Plusieurs fois, quand la chanson n'est pas acceptée, on donne la chance à la chaîne de télévision du pays de réécrire la chanson ou de faire des changements. Ici, malheureusement, Israël a dit qu'il ne le ferait pas. Je ne pense pas que c'est une très bonne position parce qu'ils auraient pu très bien faire des petits changements pour éviter d'être disqualifiés. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est aussi un peu dommage que les politiciens parlent de l'Eurovision puisqu'on n'arrête pas de dire que l'Eurovision, c'est pas politique. Donc je trouve que c'est un peu dommage que les politiques en parlent. Maintenant, ici, avec la situation en Israël, c'est compréhensible, mais ce n'est pas le cas d'Israël en ce cas-ci.
Alors évidemment, donc ils sont en train de discuter, d'examiner les paroles. On ne sait pas encore quand la décision finale va être prise, puisqu'ils sont toujours en train de discuter. On sait que pour l'instant, Israël, en tout cas à Cannes, qui est le radio diffuseur public israélien, a prévenu qu'il n'avait pas l'intention de remplacer la chanson en question.
Oui, eh bien ça c'est clair que si ça c'est le cas, eh bien si jamais l'IBU dit que la chanson est trop politique et qu'ils ne font pas de changement, malheureusement ça entraîne automatiquement la disqualification d'Israël, ce qui serait vraiment dommage. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas et j'espère qu'on va faire des petits changements de manière à ce que tout le monde soit content. Ça serait vraiment dommage qu'Israël ne participe pas. Après, il y a beaucoup de rumeurs, notamment les problèmes de sécurité à Malmö, qui est quand même une ville compliquée pour les Juifs. Il reste d'ailleurs pas de Juifs à Malmö en Suède. Donc c'est vrai que ça sera un cauchemar sécuritaire pour les organisateurs. Donc, il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'en fait, ça arrange tout le monde qu'Israël n'y aille pas. Pour vous dire
Justement,
tout.
Anthony, est-ce que le fait que ça se passe en Suède, et on sait que les pays nordiques sont pas les meilleurs amis d'Israël, on va dire, parce que ceux qui, justement, depuis que cette chanson, enfin, depuis qu'on a annoncé que Eden Golan était là, et que Israël voulait participer, c'est déjà la Norvège, c'est déjà la Suède, et c'est déjà ce genre de pays qui ont protesté pour que ça ne soit pas le cas. Ça joue ça dans la décision de l'Union européenne de radio-télévision?
Non, parce qu'en fait, c'est pas eux qui prennent la décision. Ça revient uniquement à IBU. C'est que l'organisation IBU qui a le droit de disqualifier un pays, pas la chaîne qui organise l'Eurovision cette année-ci. Donc dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Mais clairement, il y a énormément de pression, notamment des pays scandinaves, principalement l'Islande, la Finlande, où des pétitions d'artistes avec des grands chiffres, avec des grands nombres d'artistes qui ont signé ces pétitions pour disqualifier Israël. On fait énormément de pression. Pour l'instant, ça se limite vraiment à ces pays-là, mais je pense que de plus en plus, le mouvement palestinien va faire pression dans d'autres pays de manière à ce qu'Israël ne concourt pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire un effort et de manière à être sûr qu'Israël participe cette année à l'Eurovision, quitte à changer un peu les paroles.
Ma dernière question, Anthony, si j'ai, il y a des gens qui, depuis le début, demandent pourquoi est-ce que Israël participe à ce concours de l'Eurovision de la chanson?
Alors historiquement, c'est vrai qu'en fait, il suffit d'être membre de l'IBU pour pouvoir participer à l'Eurovision, être une chaîne publique, ça c'est la condition sine qua non. Et en fait, Israël, depuis toujours, accepté dans cette organisation, comme l'Azerbaïdjan, la Russie, à certains moments même le Maroc. Donc il suffit d'être membre de l'IBU pour pouvoir participer à l'Eurovision. Et c'est vrai qu'à une époque, quand Israël était quand même assez boycotté dans tous les concours sportifs, etc., culturels, c'est vrai que l'Europe avait accepté qu'Israël se joigne à l'IBU. Et c'est depuis un pays qui a eu beaucoup de succès à l'Eurovision. Et c'est d'ailleurs, je l'ai dit souvent à la radio, c'est un des rares milieux européens où il n'y a pas beaucoup d'antisémitisme, enfin, jusqu'à présent. Je me souviens toujours, la première fois que j'étais à l'Eurovision en 2011, il y avait beaucoup de non-juifs qui avaient des drapeaux israéliens. C'était l'époque où l'International avait chanté une deuxième fois. C'est vrai que ça m'avait fort frappé. J'avais expliqué à la radio qu'il y a très peu d'endroits en Europe où des non-juifs se battent avec des drapeaux israéliens. Alors, je ne suis pas sûr qu'on en aura autant cette année. malheureusement, mais c'est vrai que c'était un milieu qui est quand même beaucoup moins anti-israélien que la moyenne en Europe, et on espère tout que ça ne changera pas.
Et vous aviez parlé de la Russie, Anthony. Donc, l'Eurovision avait choisi de ne pas la recevoir à cause de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe cette année puisque la guerre en Ukraine n'est pas finie?
Alors, la Russie, c'est ce qu'ils ont expliqué, n'a pas été disqualifiée à cause de la guerre en Ukraine. La Russie a été disqualifiée parce que la chaîne publique russe avait malheureusement pas suivi toutes les règles, notamment d'objectivité et d'autres de choses comme ça. Donc, comme il y avait vraiment un lien entre la chaîne russe et le gouvernement russe qui est assez clair, elle avait été disqualifiée, pas à cause de la guerre.
D'accord, j'ai compris. Bon. Merci beaucoup, Anthony Sigé, notre spécialiste maison Eurovision. On suivra évidemment cette affaire avec beaucoup d'attention et on tiendra nos auditeurs au courant. Bonne journée à vous et à bientôt.
Bonne journée, Lisa. À bientôt.